Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Attendez, faut que j'augmente mon micro comme d'hab. Voilà. Voilà. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Les copains, et que vous passez une bonne journée en ce vendredi 14 juin. J'espère que vous avez kiffé Backseat hier soir. Émission exceptionnelle. Il y avait du monde dans le public, hein, putain, il y avait plus de 60 personnes. C'était trop cool. C'était trop cool. Les gens étaient trop chauds. Émission incroyable. Ah bah ouais, émission incroyable. Vu l'actualité, il y avait des choses à dire. Clément était on fire. Je suis très content que Clément ait accepté de venir sur Backseat. Enfin! Ça faisait des mois que Clément devait venir sur Backseat, mais il est jamais dispo. Clément, il fait des spectacles, etc. Il a un emploi du temps de ministre. Mais je suis très content qu'il ait pu venir hier soir. On aurait tellement aimé Ruffin en plateau. Ah oui, non, mais Ruffin, il était à Amiens, Ruffin. Il était à Amiens. Et on était très content de recevoir François Ruffin en interview. On a reçu. Je vais me la péter 2 minutes, hein, vous permettez, vous permettez. Je vais me la péter parce qu'on a reçu des textos des journalistes de TF1 et France 2 qui voulaient absolument la voir pour le 20h. Et ils étaient giga jaloux que ce soit nous qui l'ayons sur Backseat. Voilà. Cocorico. Cocorico. On était quota. On était quota. C'est exactement comme la fois où on avait reçu Philippe Martinez après la journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Pareil, les journalistes de TF1 France 2 qui étaient méga jaloux. C'était une exclue de l'avoir. Ouais, c'était une exclue carrément. C'est l'effet bulle où j'ai l'impression que le Front Populaire a déjà gagné. C'est carrément l'effet bulle. Le Front Populaire n'a rien gagné. Rien. Tout est à faire pour le Front Populaire et ça va être plus difficile pour le Front Populaire que pour le Rassemblement National compte tenu des mobilisations des électorats. Le Front Populaire, donc on l'a appris hier soir, les partis politiques de gauche ont scellé un accord, un double accord, un accord programmatique, donc de ce qu'ils feront s'ils arrivent au pouvoir, s'ils arrivent majoritaires aux élections. Et un accord sur les circonscriptions, les fameuses circonscriptions. Les partis se sont mis d'accord dans toutes les circonscriptions du pays. Ils ont fait ce qu'on appelle un fléchage de circonscriptions. Ça veut dire que les partis du Front Populaire se sont répartis quel parti présente un candidat dans quelle circonscription. Et les autres se rangent derrière, dans toutes les circonscriptions. Il y a eu un rééquilibrage par rapport à la NUPES, tenant compte des résultats des élections européennes. Il y a donc plus de circonscriptions PS et moins de circonscriptions LFI que ce qu'on avait dans la NUPES. Il y a aussi moins de circonscriptions écolo, compte tenu du faible score des écologistes aux élections européennes. T'as pensé quoi de François Ruffin? Moi, j'ai pas eu l'impression d'avoir un Premier ministre en interview. J'ai eu l'impression d'avoir un député de la Somme, gentil comme tout, mais un peu comme ce que disait Malek, il n'y avait pas la hauteur de vue. Mais en même temps, Antoine Bristiel avait pas tort dans son analyse en disant, attendez, nous, les passionnés de politique sur le plateau de Backseat, c'est sûr qu'on est habitué à entendre des discours de la part de personnes qui sont fondamentalement ministrables, mais... François Ruffin, quand il parle de la gratuité de l'école, quand il parle du pouvoir d'achat, etc., il parle à plus d'électeurs qu'aux passionnés de politique parisiens comme nous. Et c'est assez juste ce qu'il dit. C'est assez juste. Donc voilà. Vous avez été très dur avec lui. Pas moi, hein, moi j'ai rien dit. Hein. Donc voilà, donc je vous disais, donc les circonscriptions ont été fléchées. Les partis politiques savent donc maintenant dans quelle circonscription ils vont présenter des candidats. Ils savent également dans quelle circonscription ils ne présenteront pas de candidats. Donc ils vont devoir passer des coups de fil pour annoncer à des candidats potentiels dans les circonscriptions que malheureusement ce ne sera pas eux. Et donc on l'a appris dans la journée, la circonscription d'Adrien Quatennens. C'est normal, c'est une circonscription qui est fléchée LFI. C'est donc la France Insoumise qui a la responsabilité de choisir un candidat dans cette circonscription. Et la France Insoumise a choisi Adrien Quatennens, sauf qu'il ne portera pas le logo du Front Populaire. Mais ça ne change rien en réalité. Il sera le seul candidat de gauche dans cette circonscription. Quand est-ce qu'elle revient les vidéos sur la chaîne YouTube? Bah, y en a des vidéos sur la chaîne de replay là. Donc voilà, est-ce que la France Insoumise se tire une balle dans le pied? Est-ce que les électeurs de sa circonscription vont se détourner d'Adrien Quatennens compte tenu de sa condamnation pour violence conjugale? On verra. Moi je ne pense pas, je pense qu'Adrien Quatennens va être réélu puisque les électeurs de sa circonscription n'auront pas le choix s'ils veulent faire barrage au Rassemblement National et à Macron, il faudra voter Adrien Quatennens. Cartouche donnée au RN? Non, je pense pas. Je pense pas que les électeurs de gauche vont voter RN. Parce que c'est Adrien Quatennens le candidat. Pas le choix de voter pour un mec condamné pour violence conjugale, c'est un délire quand même. Ah bah c'est une décision de la France Insoumise. On sait qu'Adrien Quatennens c'est un protégé de Jean-Luc Mélenchon. Il est proche des cercles insoumis les plus proches de Jean-Luc Mélenchon. Et on avait déjà entendu le parti faire corps autour de lui. Une partie du parti, pas tout. Est-ce que c'est validé comme décision? Bah, y a jusqu'à dimanche, il y a encore 2 jours. Si d'aventure LFI voulait changer d'avis et présenter quelqu'un d'autre à la place d'Adrien Quatennens dans sa circonscription, mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Est-ce que tu as un lien avec le programme entier du nouveau Front Populaire? Non, j'ai pas de lien. Je dis pas que les électeurs de gauche vont voter RN, je dis que ça va servir pour dénigrer le nouveau Front Populaire. Oui, mais les personnes qui vont dénigrer le Front Populaire, c'est pas des gens qui sont contre les violences conjugales. C'est-à-dire, c'est pas le RN qui va sortir cet argument-là. Ah, il y a Dart qui vous a mis le lien vers le programme. Voilà, on a un lien vers le programme du nouveau Front Populaire. Si le FN passe, maintenant on fait quoi? Ah bah ça, j'en sais rien. Il y aura une opposition au Rassemblement National. Mais si le RN passe, sous-entendu si le RN réussit à remporter plus de la moitié des circonscriptions, ils seront au pouvoir. Ils auront des ministres. On aura probablement Éric Ciotti, ministre de l'Intérieur. Il y aura Jordan Bardella, Premier ministre. Brexit sera délocalisé à Londres. Ah bah tant qu'on nous empêche pas de faire Brexit, on continuera à le faire, nous. Hein. On est indépendant du pouvoir. LR, c'est pas encore réglé leurs affaires. Ah non, 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 LR, c'est pas encore réglé leurs affaires. Ah non. Ça, LR, ils sont dans la merde. Mais... La fête de l'UMA sera interdite, c'est possible. S'ils seront du genre à faire ça, le RN. C'est quoi le Front Populaire? Le Front Populaire, c'est une alliance électorale entre les partis de gauche, entre 4 partis de gauche, dans les circonscriptions et dans le programme. Non, il y a 5 partis, parce qu'il y a aussi Place Publique. Place Publique, le Parti Socialiste, le Parti Communiste, les Écologistes et la France Insoumise. Et le NPA ne fait pas partie de l'alliance programmatique et ne fait pas partie de l'alliance dans les circonscriptions. Le NPA a annoncé son soutien au nouveau Front Populaire. Mais le NPA n'est pas signataire. Et Génération. Oui, il y a Génération aussi, oui. Oui, il y a Génération. Squeezie se mouille un peu. Oui, j'ai vu passer la publication de Squeezie. Si vous ne l'avez pas vu, Squeezie sur Instagram a posté un post, un texte assez long dans lequel il invite à faire barrage au Rassemblement National. Très bonne initiative de la part de Lucas. Bravo à lui. C'est pas celui que j'attendais le plus pour prendre position aussi clairement et sur ses propres réseaux. On attend celle de Thibaut InShape. Tu vas l'attendre un peu plus longtemps, celle-là. Non, c'est vrai que Squeezie n'est pas habitué à prendre la parole sur des sujets politiques, hein. Moi, je l'avais eu au téléphone au moment de la publication de la tribune là qu'il a regretté. Il me disait à quel point il voulait pas prendre position politiquement. Il a aucune envie. D'une manière générale, c'est pas son truc. Mais là, il s'est senti le devoir de dire clairement que ses valeurs étaient opposées à celles du Rassemblement national. Que penses-tu du nombre de circos LFI et PS par rapport aux résultats des européennes? Bah moi je non mais je pense rien du tout. C'est-à-dire que les négociateurs sont arrivés à un accord compte tenu en tenant compte des résultats des élections européennes. Donc il y a un rééquilibrage vers le Parti socialiste par rapport à ce qu'était la NUPES. On verra combien il y aura de députés élus. Est-ce que le PS sera le premier groupe de députés de la gauche ou est-ce que ce sera toujours la France insoumise? On verra. Ça dépendra des résultats des élections dans toutes les circonscriptions. Je vois pas le rapport avec les européennes, honnêtement, sans mauvaise foi. Bah, c'est une élection. C'est un scrutin proportionnel. C'est une prise de position des électeurs. Tu tiens compte des rapports de force issus des élections. Cyprien aussi vient de se mouiller. C'est bien, c'est cool. Que penses-tu du fait qu'il n'ait pas désigné de Premier ministre potentiel? Je pense que c'est une faiblesse pour le Front populaire de ne pas avoir de Premier ministre potentiel. Je pense que les journalistes vont passer toute la campagne à demander aux candidats qui sera votre Premier ministre, parce que c'est une question légitime qui se pose, d'autant que c'est très clair du côté du RN et que c'est très clair du côté de la Macronie. Donc le Front populaire va devoir se dépêtrer avec cette question gênante de la personnalité qui pourrait incarner un gouvernement Front Populaire. Moi, ce que je pense, Macronie, ce serait qui? Ce serait Gabriel Attal. Ça a été dit clairement par le Premier ministre, par le président de la République, qui a dit que c'était Gabriel Attal le chef de la majorité. Moi, ce que je pense, c'est que si le Front Populaire arrive à gouverner, arrive majoritaire, le Premier ministre ou la Première ministre, ce sera quelqu'un d'inconnu. Ce sera une personnalité du champ social, syndicaliste, associatif, conseiller d'État, je sais pas, haut fonctionnaire. Quelqu'un de peu connu, mais de légitime, à gauche. Quelqu'un que tous les partis respectent. Un peu un Jean-Paul Delevoye, à l'époque. Ouais, ça a changé. Jean-Paul Delevoye, voilà, tout le monde le respectait. Il était très légitime parce que tout le monde le respectait. Jean Castex, voilà, Jean Castex, un haut fonctionnaire, un maire. Personne n'a rien contre lui. Ça peut permettre de faire une majorité, c'est OK. Donc on verra. Pourquoi? Parce que toute personnalité issue d'un des partis de la NUPES sera suspectée de favoriser son parti dans l'alliance. Donc, les personnes trop clivantes, comme Raphaël Glucksmann, Jean-Luc Mélenchon, ça fera pas l'unanimité. Donc il faudra un nom plus consensuel. Et le consensus, on peut le trouver chez une personnalité issue de la société civile qui est respectée par tout le monde. Ah, Boris Vallaud, il vient du PS. Je suis pas sûr que les Insoumis aient envie. Donc, on verra. On verra. Mais moi, c'est mon pronostic. Après, vous savez, je suis très mauvais en pronostic. Donc, il y a eu aussi la prise de position de François Hollande hier soir. François Hollande, donc, qui appelle à voter pour le Front Populaire. Ça, c'est une prise de position qui va faire du bien au Front Populaire. Parce que François Hollande, il est écouté par une partie de l'électorat social-démocrate, de centre-gauche, par une partie des macronistes déçus du macronisme, et des macronistes déçus du macronisme qui ont peur de Jean-Luc Mélenchon, qui n'auraient pas eu envie de voter pour le Front Populaire. Le fait que François Hollande leur dise il faut faire confiance à l'Alliance et il faut voter pour, à mon avis, ça va aider. Après, François Hollande, il n'avait pas le choix d'appeler à l'Alliance. Surtout que c'est intéressant parce que le Front Populaire, c'est une alliance de gauche qui tourne le dos à François Hollande. Si vous regardez le programme, les propositions qui sont mises sur la table, c'est une politique de l'offre. Pas une politique de la demande à la Hollande. Hein. Elle lui tourne le dos et il dit banco. Ouais, c'est ça. Après, ça ne me surprend pas. Le Parti Socialiste d'Olivier Faure avait tourné le dos au hollandisme dès le lendemain dès 2017. Olivier Faure a pris les rênes du parti Socialiste en faisant adopter par le Conseil National des textes d'orientation très critiques du quinquennat de François Hollande et de la politique de l'offre. Donc ça ne me surprend pas du PS, de toute façon le PS ça fait 7 ans qu'il est dans la NUPES, il fait partie de l'Alliance, etc. Mais est-ce qu'ils se sont mis d'accord sur la question du nucléaire? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu entends par politique de l'offre ou politique de la demande? Politique de l'offre, c'est des politiques qui sont favorables aux entreprises et à la baisse du coût du travail pour susciter l'activité économique et générer de l'emploi par les entreprises. Politique de la demande, c'est une politique qui va davantage aller vers les salaires, se tourner vers la consommation. Augmentation des salaires, augmentation des pensions, augmentation des points d'indice. Et clairement, le programme du Front Populaire a choisi de se diriger vers une politique de la demande. Pour le nucléaire, ce sera tranché par un vote à l'Assemblée. Bah c'est plié. C'est plié alors. Si tu fais voter l'Assemblée nationale sur le nucléaire, l'écrasante majorité des groupes sont pour le nucléaire. Les deux seuls groupes qui sont contre le nucléaire, c'est les écolos et les insoumis. Le RN est pour le nucléaire. Enfin, ça dépend les déclarations de... Marine Le Pen, qui retourne sa veste souvent. Les macronistes sont pour le nucléaire, évidemment. Les socialistes sont pour le nucléaire. Les communistes sont pour le nucléaire. Donc, quand il y aura un vote... Je pensais que LFI était pour. Non, la France Insoumise a proposé, dans tous ses programmes présidentiels, de sortir du nucléaire, et Jean-Luc Mélenchon a toujours été opposé au nucléaire. Les positions du RN sur le nucléaire ces dernières années, ça dépend un peu du sens du vent. Oui, t'as raison, Defecator. Oui. C'est pour ça que je disais. ça dépend quelle interview on écoute de Marine Le Pen, qui a retourné sa veste sur plein de sujets, hein. Sur l'euro, sur l'Europe, sur l'Ukraine. Faire un référendum sinon. Un référendum sur le nucléaire, je sais pas. Est-ce que tu peux mettre toute la politique, mais en plus, tous les observateurs du débat sont d'accord pour dire que la question ne se résume pas à pour ou contre le nucléaire. En fait, ça n'a pas beaucoup de sens, pour ou contre le nucléaire. Une politique énergétique, ça peut prendre en compte le nucléaire, ça peut se diriger vers la sortie du nucléaire, mais ça peut pas. C'est comme Jean-Luc Mélenchon qui s'est exprimé de manière différente sur le sujet du nucléaire en fonction des moments où il prend la parole. Il a été très rassurant en interview quand il était candidat. En meeting, ça lui est arrivé de dire que la sortie du nucléaire, ça prenait un quart d'heure. Ce qui sous-entend l'arrêt des réacteurs, enfin, ce qui est irréaliste, mais voilà. Donc pareil, la France insoumise. Toujours facile de dire que t'es contre le nucléaire quand t'es dans l'opposition. Si demain ils sont au pouvoir, il va falloir qu'ils présentent un plan. Un plan qui peut comprendre la sortie du nucléaire. À l'époque où la gauche était au pouvoir sous François Hollande, il y avait un accord entre les écologistes et les socialistes qui prévoyait la sortie à terme du nucléaire, mais le développement des énergies renouvelables en attendant. Sous-entendu, on va faire monter en charge le développement des énergies renouvelables, et au fur et à mesure que les énergies renouvelables monteront en charge, on pourra sortir du nucléaire et fermer des réacteurs. C'était la politique qui était menée. Bon, elle a duré que 5 ans, donc forcément, ça. Ça, c'est des politiques qui prennent plusieurs décennies. Hein. Faut bien se rendre compte que la relance du nucléaire, la sortie du nucléaire, enfin, c'est des mots qui sont lancés comme ça. En réalité, c'est des infrastructures, c'est des projets industriels, c'est des projets sur plusieurs décennies. Ta cam bouge. Mais oui, je sais, parce qu'elle est. Elle est accrochée à mon bureau, ma cam. Je pense que les jeunes militants écolos et insoumis sont plus pro-nuc que les cadres du parti. Les militants, je ne saurais pas dire, les électeurs, je pense, ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est plus mitigé. Abroger le 49-3, c'est vraiment une bonne idée. Et pas plutôt modifier son texte. Je sais pas, abroger le 49-3, est-ce que c'est une bonne idée? C'est une question de point de vue. Le 49-3, quand il est utilisé, il est très impopulaire, il est vu comme un tour de force anti-parlement, anti-parlementaire. La réalité, c'est que si le Front populaire arrive au pouvoir avec une majorité relative, je vous le dis tout de suite, ils vont avoir recours au 49-3. Je vous le dis tout de suite. Tu ne peux pas gouverner sans 49-3 si tu as une majorité relative. Il est hors de question qu'ils se suppriment cette arme gouvernementale-là quand ils seront au pouvoir. Oui, mais c'est le bon 49-3. Mais voilà, le mauvais 49-3, c'est celui qui est fait par le camp d'en face. Le bon 49-3, c'est celui qui est fait par mon camp. C'est exactement ce qu'ils vont expliquer. Vous allez voir le tour des plateaux télé par tous les membres de la majorité qui vont venir défendre le 49-3 en disant « Ouais, mais c'est pas pareil !» Le 49-3 d'Elisabeth Borne, il n'était pas bien. Nous, il est vachement bien. Quarante-neuf-trois populaire, c'est ça. Est-ce que tu crois à l'Assemblée ingouvernable? Oui, je crois au scénario de l'Assemblée ingouvernable. Je crois au scénario d'une tripolarisation. Avec un Front populaire qui progresse par rapport à la NUPES, avec un Rassemblement national qui progresse, et un groupe macroniste qui se réduit mais qui reste et qui fera la pluie et le beau temps. Donc il est possible que dans un mois, le Front populaire soit obligé de négocier avec les macronistes un contrat de gouvernement. Et ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Avec ou sans LFI. Alors, c'est l'autre possibilité, et tu as raison, c'est un éclatement du Front populaire arrivé à l'Assemblée. Et donc une majorité de coalition entre les communistes, les écolos, les socialistes, les macronistes. Est-ce qu'ils seront majoritaires? C'est la vraie question. Est-ce qu'ils seront majoritaires? Si Jean-Luc Mélenchon fait ça, je lui pardonnerai jamais. Ah bah Jean-Luc Mélenchon, il fera pas ça, parce que lui, il sera contre. Donc on verra. On verra la réponse dans les urnes les 30 juin et 7 juillet prochains. L'enjeu pour le Front Populaire, clairement, c'est un enjeu de mobilisation. C'est pas tant le nombre d'électeurs qui leur fait défaut que la mobilisation de leurs électeurs. Est-ce que les gens vont aller voter? Est-ce que les gens vont aller voter pour adhésion au Front Populaire? Est-ce que les gens vont aller voter par rejet du Rassemblement National? Peu importe. Ce qui compte, c'est que les gens aillent voter. Le problème, c'est que ces élections, elles s'organisent en 20 jours. Il y a beaucoup de Français qui ont prévu de partir en vacances, en week-end. On risque d'avoir beaucoup, 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 beaucoup de bulletins qui manquent. Et je vous rappelle un point extrêmement important pour les élections législatives, c'est que le maintien au second tour des élections législatives se fait si vous récoltez 12,5% des inscrits. Pas des voix, des inscrits. Donc la mobilisation est extrêmement importante. Beaucoup plus que pour les autres élections. Peut-être que le Front Populaire n'arrivera pas à se qualifier au second tour dans plein de circonscriptions. Parce qu'il y aura peu de participation, et que donc 12,5% des inscrits, ça veut dire 20-25% des suffrages exprimés. Et en fonction de qui est le candidat et de quel parti il est issu, peut-être qu'il n'y arrivera pas. Ce que je dis est aussi valable pour les macronistes, qui n'arriveront peut-être pas à se qualifier au second tour dans beaucoup de circonscriptions, pour la même raison. Il y a une question que je trouve intéressante à se poser. Merci Moustix pour les 5 subs offerts au chat, merci, merci. Il y a une question que je trouve intéressante à poser dans les circonscriptions. Si le candidat du Front Populaire arrive en troisième position, mais il a quand même les 12,5% d'inscrits, derrière un macroniste et derrière un candidat RN, est-ce que le candidat du Front Populaire doit se retirer au profit du macroniste pour empêcher le RN de gagner la circonscription? S'il se maintient, c'est la garantie que le RN gagne. S'il se retire, ce sera probablement un macroniste qui gagnera, mais ce ne sera pas le RN. A l'inverse, dans une autre circonscription, si le candidat macroniste arrive en troisième position, derrière un LFI, est-ce qu'il se désiste en profit du LFI contre le RN? Ha! Ça, c'est une question que les journalistes doivent poser. Ça, c'est une question qu'il faut poser. C'est une question qui emmerde beaucoup les partis parce qu'ils n'ont pas envie d'y répondre. Si dans une circonscription, le premier n'a pas 50% au premier tour, mais le deuxième a moins de 12,5% des inscrits, y a-t-il un second tour avec un seul candidat en lice? Non. Si jamais tous les candidats n'ont pas réuni 12,5% des inscrits, la règle c'est qu'on garde les deux candidats arrivés en tête. On fait un second tour à deux candidats, les deux arrivés en tête, comme à la présidentielle. Mais dans la circo, tu vois ce que je veux dire? C'est ça la règle. Il ne peut pas y avoir de second tour avec une seule personne. Il ne peut pas non plus y avoir de second tour avec zéro personne. Imaginez qu'aucun candidat ne réunissent 12,5% des inscrits, c'est possible. Si t'as une énorme abstention, personne va voter. Il y a beaucoup de candidats, les voix sont éparpillées. Personne ne fait 12,5% des inscrits. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on fait un second tour avec les deux premiers. Voilà. C'est déjà arrivé. Oui, c'est déjà arrivé. Est-ce que tu penses qu'il y aura beaucoup de triangulaires? Oui, je pense qu'il y aura beaucoup de triangulaires. Parce que ces élections législatives présentent un paysage politique, certes très divisé, mais avec des blocs très forts. Dans les circonscriptions, vous aurez un candidat RN, vous aurez un candidat macroniste, vous aurez un candidat Front Populaire, et vous aurez d'autres petits candidats. Mais la probabilité de chance que les trois candidats arrivent à se qualifier au second tour est assez importante. Donc je pense qu'on risque d'avoir beaucoup de triangulaires. Triangulaire, je vous rappelle, c'est trois candidats qui se maintiennent au second tour. Et donc ça repose la question que je vous posais tout à l'heure. Est-ce qu'il faut se désister au profit des macronistes pour faire face, pour empêcher le RN de gagner une circonscription? C'est aussi la raison pour laquelle je vous invite à vous méfier énormément des sondages. Il est impossible de faire des projections de sièges. J'ai vu qu'il y avait déjà des gens qui s'y essayaient sur Internet, là, qui disent « Ouais, il y aura plus de 300 députés RN et tout. » On ne peut pas faire de projection de sièges. Il y a 577 élections différentes. Il y a 577 réalités différentes avec des comportements d'acteurs qu'on ne connaît pas à l'avance. Donc, prudence sur les sondages. Les projections de sièges, on ne sait pas. Et en plus, dans chaque circonscription, c'est encore plus difficile de faire des projections parce qu'on ne connaît pas la participation. C'est beaucoup plus facile pour les européennes, c'est une proportionnelle, tu demandes aux gens pour quelle liste vous allez voter, tu peux faire des sondages, des calculs et tout, c'est faisable. La présidentielle, c'est facile de faire des sondages. Pour qui vous allez voter, il y a des candidats, c'est facile, on peut faire des projections sur le second tour et tout. Les élections législatives, qui va réunir 12,5% des inscrits dans chaque circonscription, c'est une question à laquelle personne ne peut répondre, aucun sondeur, parce qu'on ne sait pas combien de personnes vont aller se déplacer. Est-ce que tu penses que la participation sera plus forte du fait de la dissolution? Il y a eu 50% de participation aux européennes. D'un côté, on peut dire que les gens vont se mobiliser pour faire barrage au RN, et que les électeurs RN aussi vont se mobiliser, donc bonne participation. D'un autre côté, on peut dire aussi que ces élections sont organisées à la dernière minute et que beaucoup de Français ont prévu de faire autre chose ce week-end-là et il y en a plein qui seront en vacances, en déplacement et bon, bah voilà. Donc, ces deux éléments me font dire que je sais pas. Je suis incapable de te dire s'il y aura plus de participation ou pas. Y a-t-il une raison pour que le mode de scrutin soit différent entre les présidentielles et les législatives? Bah oui, c'est pas les mêmes élections. Voilà. Comme les municipales, les régionales, les départementales, les élections professionnelles, les élections étudiantes. C'est des élections différentes, donc il y a des modes de scrutin différents. Par ailleurs, je t'invite à remarquer que le mode de scrutin à la présidentielle et aux législatives, comme tu dis, c'est à peu près le même. C'est un scrutin majoritaire, à deux tours. Mais il n'y a pas les mêmes règles de qualification au second tour. Quand il y a eu des dissolutions sous la Ve République, les participations étaient plus fortes après. Oui, mais c'était des dissolutions dans un contexte très différent d'aujourd'hui. C'était des dissolutions, je parle de celle de François Mitterrand, après une élection présidentielle qu'il avait remportée. Évidemment que les électeurs étaient très mobilisés après la présidentielle. Là, on est après des européennes, c'est jamais arrivé. Donc, bon. Est-ce que tu penses que la Carmine a une chance de se qualifier pour les playoffs en LEC? Oui. Oui, oui, clairement. Et je suis à fond derrière eux. Pourquoi le mode de scrutin n'est jamais remis en question alors qu'il existe d'autres alternatives plus justes et simples à mettre en place? Le mode de scrutin est tout le temps remis en question. Je ne sais pas d'où tu sors qu'il n'a jamais été remis en question. Il fait l'objet de discussions, de débats et de contre-propositions depuis 1958. Lors de dissolution, la tendance est-elle à la bascule du pouvoir généralement? Il n'y a pas de généralité. Il n'y a pas de généralité parce qu'il y a des dissolutions très différentes les unes des autres. François Mitterrand a dissous l'Assemblée nationale en 81 et en 88 parce qu'il venait de remporter les élections et que donc il voulait que la Chambre corresponde à sa couleur politique. Ce qu'il a réussi à faire. Pas tout à fait en 88, mais quand même. La dissolution de 68, c'était après les événements de mai 68. La dissolution de 62, c'était après le référendum, après l'annonce du référendum sur le suffrage universel. La dissolution de 95, c'était 97, pardon. C'était dans un contexte très particulier. Donc il n'y a pas de généralité, je suis désolé. Est-ce que tu penses que Ruffin a des chances d'être désigné par le Front Populaire? Alors, Ruffin sera candidat dans sa circonscription de la Somme, ça c'est sûr. Est-ce qu'il sera le Premier ministre en cas de victoire du Front Populaire? Je ne sais pas. La règle qui a été édictée par les partis du Front Populaire, c'est le parti qui aura le plus grand nombre de députés parmi nous proposera un nom. Et les autres diront ce qu'ils en pensent. Moi, je vous dis ce qui va se passer compte tenu de la répartition des circonscriptions, c'est qu'il y aura beaucoup de députés LFI, beaucoup de députés PS. Et vous savez comme moi que le PS et LFI, ils sont pas toujours d'accord. Côté LFI, c'est plus Ruffin qui a des chances d'être choisi que Jean-Luc Mélenchon. Oui, c'est vrai, tu as raison. Les Insoumis, sachant très bien que la proposition Jean-Luc Mélenchon ne recueillera pas le soutien des autres partis du Front Populaire, ils ne le proposeront pas. Ils proposeront probablement Ruffin, mais ça peut être Mathilde Panot, ça peut être Manuel Bompard, ça peut être Clémence Guettet. Pourquoi pas Autain? Delphine Autain, elle est en rupture de ban avec la direction du parti. Comme Ruffin, tu me diras. Oui, ça résout. Oui. Mais Clémentine Autain, ça pourrait être une première ministre qui réunit l'aval des socialistes, des communistes, des écolos. C'est possible. Est-ce que Macron ne risquerait pas de choisir quelqu'un qui clive? Macron n'aura pas le choix en réalité. Macron, il va se faire imposer un nom. Il peut essayer de jouer un petit peu, mais la réalité, c'est que c'est pas. Il s'agit pas de trouver un candidat qui plaît à Macron. Il s'agit de trouver un candidat qui réunit une majorité de votes lors d'un vote de confiance. C'est ça l'enjeu. Donc la balle n'est pas dans le camp de l'Élysée, la balle est dans le camp du Parlement et du Front Populaire. Si d'aventure le Front Populaire arrive majoritaire, ce qui n'est pas certain, je vous invite à imaginer sérieusement le scénario d'un Front Populaire qui a une majorité relative et qui est obligé de composer avec des macronistes. De la même manière que les macronistes ont essayé de composer avec les Républicains pendant 2 ans, là. Bon, quand on voit le move de Ciotti, on comprend pourquoi ils n'ont jamais réussi. Combien de temps le Front Populaire tiendra? Ça, c'est une bonne question. Le Front Populaire au pouvoir, combien de temps il tient? La gauche plurielle a tenu pendant 5 ans. Mais c'était pas la même condition politique. Et puis la gauche plurielle s'est écrasée lamentablement sur le scrutin de 2022. Donc au final, est-ce qu'elle a vraiment tenu? Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Oui. Ça va, ça va être. Mais être au pouvoir dans ce pays. Être au pouvoir, c'est un exercice extrêmement difficile pour le parti qui est au pouvoir. Parce que tu es confronté au réel. C'est fini l'époque où tu étais dans l'opposition, où il suffisait de voter contre, de faire des tribunes, de faire des envolées lyriques à l'Assemblée pour dire que t'es pas d'accord, etc. Quand tu arrives au pouvoir, tu es confronté au réel, tu dois assumer le pouvoir et tu dois prendre des décisions difficiles, avec des arbitrages difficiles. Et donc tous les partis vont devoir ravaler une partie de leur fierté et accepter des trucs avec lesquels au début ils n'étaient pas trop d'accord, mais en fait pas le choix. Pas le choix parce qu'on est au pouvoir. Et le premier truc que doit faire le nouveau gouvernement une fois qu'il arrive au pouvoir, c'est un budget rectificatif. Et un budget, c'est des orientations politiques. Donc si tu veux mettre dans ton budget rectificatif l'augmentation du SMIC, l'augmentation des pensions, l'augmentation des points de retraite, la gratuité de l'école, etc., machin, tu fais exploser les dépenses de l'État, et en face, tu dois mettre des ressources qui permettent d'y arriver. Augmenter les impôts, sur qui, sur quelles entreprises, avec quels effets sur l'emploi, remettre l'ISF, etc., etc. Apparemment, c'est officiel, Poutou rejoint le Front populaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Philippe Poutou va être candidat dans une circonscription? Et si oui, c'est des circonscriptions qui sont prises à qui? Est-ce que c'est sur le quota LFI? Le NPA aurait quelques circonscriptions apparemment. Ok, intéressant. Moi, j'ai pas entendu le Parti socialiste signer un accord avec le NPA. Hein. Pourquoi LFI a plus de circonscriptions que le PS alors qu'ils étaient moins hauts aux européennes? Parce qu'il n'y a pas que les européennes qui comptent dans le calcul, il y a aussi la présidentielle. Et la présidentielle, je te rappelle que les insoumis ont fait plus de 20% et les socialistes ont fait 1,7%. Donc par rapport à la NUPES, il y a eu un rééquilibrage. LFI a moins de circonscriptions, le PS a plus de circonscriptions, mais c'est pas non plus une inversion de... Voilà, le LFI reste le parti qui a le plus de circonscriptions. Est-ce qu'ils auront le plus de sièges? Ça, on verra. C'est les élections qui décideront. Est-ce que tu penses que les prises de parole d'influenceurs comme Squeezie peuvent changer quelque chose? C'est très difficile à mesurer, tu sais. Je pense que ça peut inciter des jeunes à aller voter. Or, le Front populaire a besoin de mobilisation et a besoin de mobilisation des jeunes. Donc ça peut aider. Est-ce que c'est bon pour vous? En tout cas, ça fait pas de mal. Non, ça c'est sûr. Selon toi, comment réagira Macron en fonction des résultats? Démission, cohabitation? Moi, Macron, il m'a surpris dimanche dernier en annonçant une dissolution. Je m'y attendais pas. Donc me demandez pas ce que je pense du comportement de Macron dans 20 jours. Ce mec-là, il est en roue libre. Je sais pas ce qu'il fait, je comprends pas pourquoi il prend ses décisions. Donc ça, voilà. Oui, Emmanuel Macron peut démissionner si le Rassemblement national arrive au pouvoir. Démission, il a dit non. Oui, mais c'est normal qu'il le dise. Évidemment, c'est normal qu'il le dise, qu'il dise non, je démissionnerai pas. Si Emmanuel Macron met sa démission dans la balance, c'est une invitation aux électeurs à aller voter Jordan Bardella. Donc c'est complètement normal qu'ils le disent. Y a-t-il des députés LREM qui ne se représentent pas? Oui, il y en a quelques-uns qui ont annoncé leur volonté de ne pas se représenter. Mais Renaissance présentera des candidats dans les 577 circonscriptions, ça c'est sûr. Est-ce que tu es étonné que Hollande soutienne le Front Populaire? Oui, dans le sens où le Front Populaire a choisi des options qui sont en rupture radicale avec le quinquennat de François Hollande, et non dans le sens où François Hollande n'avait pas vraiment le choix, c'est-à-dire qu'il n'a pas les moyens aujourd'hui, François Hollande, de créer un parti opposé au Front Populaire, il n'en a pas l'envie non plus. Le Front Populaire est un rééquilibrage vers le PS par rapport à la NUPES. Raphaël Glucksmann a fait un bon score qui conforte la ligne de François Hollande. Donc voilà, pour toutes ces raisons, François Hollande, il est plus à l'aise avec le Front Populaire qu'il ne l'était avec la NUPES. Et puis il croit au Front Républicain Hollande. Oui, bien sûr. Non, mais oui, Hollande, il fait son choix. Enfin, je dirais, il se dit, je préfère largement avoir un gouvernement Front Populaire avec lequel je suis en désaccord sur certains points, plutôt qu'avoir un gouvernement RN avec lequel je suis en désaccord sur tous les points. Donc il y a aussi ça, il y a aussi une forme de responsabilité de la part de François Hollande. En cas de victoire du Front Populaire, tu vois qui en chouette Premier ministre? Moi, ce que je vous disais, c'est que je pense que le Premier ministre du Front Populaire sera quelqu'un d'inconnu. Je pense que ce sera un technocrate, ce sera une personne peu connue, un haut fonctionnaire, un conseiller d'État, quelqu'un de la Cour des comptes, quelqu'un issu du syndicalisme, quelqu'un issu de l'associatif, une personnalité qui fait consensus et qui a l'avantage de ne pas avoir pris position ces dernières années dans les bisbilles à gauche. Donc il sera vierge de toute, de tout parti pris. Ça pourrait être Laurent Berger, oui, ça pourrait être Sophie Binet, ça pourrait être Genre Castex. Ouais, c'est ça, je pensais à Castex. C'est un peu un profil à la Castex. Quelqu'un qui fait consensus. Je pensais aussi à Jean-Paul Delevoye à l'époque. En 2017, Jean-Paul Delevoye était quelqu'un de très 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 respecté. Par tout le monde, vraiment, y compris à gauche, les gens disaient, oui, Jean-Paul Delevoye, il avait été président du Conseil économique, social et environnemental. Je sais plus ce qu'il avait fait quoi, il avait fait quoi d'autre, mais Jean-Paul Delevoye, c'était un ancien ministre il y a longtemps, de Chirac, un truc comme ça. Ruffin fait assez consensus à gauche. Oui, la capacité de François Ruffin à diriger un gouvernement ne fait pas consensus. Voilà, j'ai rien contre François Ruffin à titre personnel. Est-ce qu'il est à même de diriger le gouvernement de la cinquième puissance mondiale? Plusieurs personnes qui vont se dire que François Ruffin est un très bon tribun, un très bon hâbleur, mais bon. Peut-être pas, mais vu les peintres qu'on a sous Macron, pourquoi pas lui? Ah non, 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 mais c'est pas impossible, hein. On a eu Raffarin. Raffarin, il était sénateur. Il était président d'une commission, je sais plus laquelle. Pourquoi ne pas ouvrir les nouvelles inscriptions pour voter aux législatives selon toi? Parce qu'on n'a pas le temps. Clairement, le ministère de l'Intérieur a été très clair. En 20 jours, on ne peut pas éditer de nouvelles listes électorales. Ça prend un temps fou, voilà, c'est pas possible. Il y a eu une saisine du Conseil constitutionnel en référé, notamment par la France insoumise, pour contester l'organisation de ces élections législatives, avec notamment un argument que je trouve intéressant juridiquement, qui est que la Constitution prévoit que les élections doivent avoir lieu entre 20 et 40 jours. Macron a choisi 20 jours, sauf que on doit organiser des élections anticipées dans les territoires d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer, ce qui veut dire donc qu'elles auront lieu avant le délai de 20 jours prévu par la Constitution. Donc, est-ce que c'est vraiment conforme à la Constitution tout ça ? Intéressant. Intéressant, je ne sais pas ce que va répondre le Conseil constitutionnel. Je sais pas, c'est technique. Ouais, c'est technique, c'est technique. Et les Français de l'étranger aussi, oui. Les Français de l'étranger aussi, les bureaux de vote doivent être ouverts plus tôt, etc. pour plein de raisons. Donc, c'est quand qu'on a la réponse du Conseil, je sais pas. Je sais pas du tout. Avant dimanche, c'est sûr. Est-ce que le Conseil constitutionnel peut retoquer les élections ? Oui. Oui, le Conseil constitutionnel peut prononcer l'annulation du décret de convocation des élections, auquel cas le gouvernement devra prendre un nouveau décret tenant compte des exigences du Conseil constitutionnel en matière d'organisation et de délai. Évidemment, le gouvernement va utiliser l'argument des Jeux Olympiques, ce qui est juste, mais peut-être que les élections auront lieu fin juillet, avant les JO. Je sais pas, j'en sais rien. Dans ce cas, est-ce que l'Assemblée est rétablie en attendant ? Si le décret est annulé, oui. Mais bon, l'Assemblée n'est pas convoquée, donc ça change rien en réalité, ils vont pas siéger. Est-ce que les vacances d'été ne vont pas générer une forte abstention ? Si ! Mais si, c'est le risque, c'est ce que je vous disais. Ces élections législatives, elles sont organisées à l'arrache en 20 jours, à un moment où les Français ne s'attendaient pas à avoir des élections. Donc il y a plein de gens qui avaient prévu de partir en week-end, en vacances, des grands-parents qui accueillent leurs petits-enfants, qui n'auront pas le temps d'aller voter. Enfin, les gens bougent, hein, les gens travaillent. Donc oui, bien sûr. Pour le moment, on n'a plus d'Assemblée nationale. Non, elle a été dissoute. Il n'y a plus d'Assemblée nationale. Je comprends pas pourquoi ce délai de 20-40 jours par rapport aux européennes et pourquoi. Bah écoute, ça faut sonder l'âme d'Emmanuel Macron pour comprendre. Je pense qu'Emmanuel Macron a voulu prendre tout le monde de vitesse pour empêcher les partis politiques de se préparer, de s'organiser, pour empêcher la gauche de s'unir. Je pense que Macron tablait sur une division de la gauche, sur une séparation du PS et des Insoumis. Voilà. C'est loupé. Dans la mairie où je bosse, on galère à avoir des assesseurs parce que tout le monde est en vacances. Ça fait peur pour l'abstention. Ouais, non, je sais, toutes les mairies sont en train de s'arracher les cheveux pour trouver des gens pour tenir les bureaux de vote. Est-ce qu'un changement de gouvernement avant les JO peut poser un problème au bon déroulement de ceux-ci ? Non. Non, les JO, ils sont prévus, organisés, ils vont se tenir. Les ministères concernés sont de toutes les façons au taquet depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, pour l'organisation. Tout est prêt. Vous savez, c'est comme la rentrée scolaire. La rentrée scolaire, elle n'est pas organisée par le ministre de l'Éducation nationale. L'administration s'en occupe. C'est prévu, c'est organisé, donc tu peux changer de ministre de l'Éducation nationale, ça met pas en péril la rentrée scolaire. La rentrée scolaire, c'est un processus de plusieurs mois, c'est des gens qui connaissent leur métier, qui le font depuis des années, c'est une administration organisée, etc. Voilà, et c'est pareil pour les JO. Le ministère de l'Intérieur, qui va s'assurer de la sécurité des Jeux Olympiques, c'est pas les mêmes fonctionnaires que ceux qui s'occupent de l'organisation des scrutins. Ça va être tendu, c'est sûr. J'aimerais pas être haut fonctionnaire au ministère de l'Intérieur en ce moment. Ça doit être un putain de bordel. Mais voilà, ça va se faire. Est-ce que le RN peut dissoudre le Conseil constitutionnel en 3 ans? Non. Il ne le peut pas. Pour ça, il faudrait modifier la Constitution. Et le Rassemblement national n'a pas la majorité des 3/5 au Congrès pour le faire. Par contre, il peut faire un référendum. Les gens de droite qui sont pas au RN, ils doivent voter pour qui? Du coup, il n'y a pas les républicains. Si, 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 il y aura les républicains. Les républicains vont se présenter dans plein de circonscriptions, hein. Déjà, les sortants, c'est sûr qu'ils se représentent. Et les autres, à mon avis, ils vont s'organiser comme ils veulent. De toute façon, c'est tellement le bordel au sein du parti Les Républicains qu'à mon avis, les candidats dans les circonscriptions, ils vont pas attendre, hein. Ils sont déjà en train de se préparer, organiser, ils vont faire leurs affiches. Il y aura peut-être le logo, peut-être pas le logo. Ils s'en branlent. Non, non, à mon avis, le bordel au sein du parti Les Républicains, c'est au niveau de la tête du parti que c'est le bordel en ce moment. Dans les territoires, les candidats Les Républicains, t'inquiète qu'ils. Ils sont en train de se dire, c'est tellement le bordel à Paris que moi je vais faire ma campagne dans mon coin, niquez-vous, allez vous faire foutre, pas de consignes. Il peut y avoir 2 républicains par circonscription, ah ça c'est un risque, oui. Mais de la même manière que dans les circonscriptions dans lesquelles les candidats Front Populaire se présentent, il y aura des candidats dissidents, hein, ça peut arriver, hein. Il peut y avoir des candidats de gauche qui sont pas d'accord avec la candidature dans leur circonscription et qui décident de faire une candidature dissidente, hein. C'était déjà arrivé au moment de la NUPES. Voilà. La ligne Valls d'Elga. Ouais, puis t'as aussi la ligne des insoumis qui veulent pas voter pour un socialiste. Qui se présente contre un socialiste, contre l'avis du Front Populaire. Hein. Falorni Royal en 2012. Ouais, c'est un bon exemple. Pourquoi le système de vote aux européennes était si compliqué par rapport à d'autres pays? N'était pas compliqué le vote aux européennes, hein. C'était un scrutin de liste proportionnel, basique, en un seul tour. Franchement, là je te suis pas. Oui, il y avait le seuil des 5% minimum. Ça permet d'éviter d'avoir un éclatement de petits partis au Parlement européen. Voilà, c'est à ça que ça sert. Pareil pour la prime majoritaire dans les élections régionales. Pareil pour le scrutin majoritaire, uninominal à 2 tours par circonscription, avec qualification au second tour avec 12,5% des inscrits. Ça force les partis à se réunir. Ça permet d'avoir des partis forts pour éviter l'émiettement des partis. Les prochaines législatives seront en 2027 ou en 2029, du coup. Présidentielles et législatives sont décalées en 2 ans maintenant. Bah, les députés sont élus pour 5 ans, mais il pourra très très bien y avoir une dissolution après 2027. Le candidat élu à l'élection présidentielle de 2027, où la candidate pourra tout à fait, et a priori devra, dissoudre l'Assemblée nationale. Ou dans un an. Ah, il peut y avoir une nouvelle dissolution dans un an. Si les résultats des élections législatives, là, créent un blocage institutionnel au Parlement, à l'Assemblée nationale, ça va être le bordel pendant un an, et dans un an, Macron redissout. Et on aura à nouveau des élections. Y a-t-il un délai pour pouvoir redissoudre l'Assemblée nationale? Oui, un an. Comment ça se passe s'il y a un blocage complet le 7 juillet, pas de gouvernement du tout pendant un an? À ce moment-là, on a un gouvernement technocratique qui ne s'occupe que d'expédier les affaires courantes, qui ne gouverne pas réellement, c'est-à-dire qu'il ne, y aura pas de grand projet pour affaires. Il pourra faire voter les lois les plus urgentes pour vraiment faire face au tout venant, quoi. Mais il n'y aura pas de mise en œuvre d'un programme politique, de transformation avec des réformes et tout. Ce sera à la Belge, comme les Belges l'ont connu. Voilà, un gouvernement minoritaire, pas. Bonjour Jean, comment avance le financement d'une potentielle émission Baxit pour couvrir la législative? Merci pour vos dons les amis, merci pour votre participation au financement de Baxit. A priori, d'après les calculs qu'on a faits hier soir, on devrait avoir assez d'argent pour organiser au moins une émission pour couvrir les résultats. Notre but, ce que je vous ai annoncé hier soir, c'est qu'on aimerait bien réussir à faire trois émissions. Mais pour ça, il faut qu'on récolte 50 000 balles, quoi. Donc, c'est pas sûr qu'on y arrive, mais merci pour votre participation. Ça commence à porter ses fruits. Macron pourrait-il dissoudre pour contrer le gouvernement de gauche, s'il y en a un? Oui, il pourrait, mais le cas échéant, peut-être que l'électorat de gauche ne sera pas très content. Et retournera aux urnes en votant encore plus à gauche, tu vois. Donc c'est peut-être pas dans l'intérêt d'Emmanuel Macron de redissoudre. Est-il possible que quelqu'un à qui je donne ma procuration vote autre chose? Si oui, est-ce qu'il y a des sanctions? Non, c'est un contrat moral que tu passes avec cette personne-là, il n'y a pas de sanctions. C'est uniquement du déclaratif. Donc non. Par contre, je t'invite à ne plus être ami avec la personne qui a trahi ta confiance. Possibilité de démission de Macron? C'est possible que si le suffrage universel vote massivement pour Jordan Bardella, Emmanuel Macron en tire les conclusions sur sa propre légitimité et présente sa démission. Oui, c'est possible. Tu as l'air vraiment triste. Ah non, 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 mais moi ça va, hein. Excusez-moi, je ne souris pas en permanence, mais je suis très content d'être avec vous et de discuter avec vous. J'aime bien nos petites discussions, c'est cool. Il se passe quoi s'il démissionne? Bon, on refait des élections, on refait une élection présidentielle. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Si Bardella devient Premier ministre issu d'une majorité relative, pourra-t-il faire usage du 49-3? Oui. Mais ce faisant, il s'expose à une motion de censure qui pourrait potentiellement être adoptée par tous les autres députés. Faut qu'il fasse gaffe. T'as vu la publication de Squeezie? Ouais, j'ai vu la publication de Squeezie, je lui ai envoyé un texto, je l'ai félicité. C'est une très très belle prise de position de la part de Squeezie, je l'attendais pas forcément. Est-ce que le président peut démissionner après les résultats du premier tour? Oui, il le peut. MV qui troll en demandant la même venant de Thibaut. Meilleur troll. Il a dit quoi, Squeezie a appelé à faire barrage au Rassemblement National. À l'extrême droite. En cas de motion de censure, l'Assemblée ne peut pas être dissoute. Si. En cas de motion de censure, l'Assemblée peut être dissoute. C'était arrivé en 1962. Est-ce que le nouveau gouvernement devra forcément demander la confiance? Bah non. Non, on a vu Elisabeth Borne et Gabriel Attal gouverner le pays sans confiance. Preuve que c'est pas obligatoire. Salut Jean, concernant les Républicains, qui contrôle le budget de campagne? Ciotti peut-il empêcher les candidats républicains d'utiliser le fonds de campagne de leur propre parti? Je ne sais pas. Je ne connais pas l'organisation interne des Républicains et leur lien avec leur association de financement. Je pense que le financement des campagnes législatives se fait par circonscription, candidat par candidat, donc c'est pas directement lié au parti. C'est surtout les remboursements des frais de campagne qui sont liés au parti. Donc voilà. Et dans quelle mesure est-ce que Éric Ciotti, désormais en guerre avec les instances de son propre parti, peut-il bloquer la machine électorale? Je ne sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je sais pas comment il fonctionne, je sais pas comment il s'arrange. C'est quoi le Front Populaire? Le Front Populaire est une alliance électorale entre les différents partis de gauche qui se sont mis d'accord pour ne présenter qu'un seul candidat et une seule candidate par circonscription. Ils se sont mis d'accord sur un programme de gouvernement, un contrat de gouvernement si jamais ils remportaient ces élections, et ils se sont mis d'accord sur la répartition des circonscriptions. Voilà, ils ont négocié 3 jours pour ça. Salut Jean, on te demande souvent si des trucs sont possibles ou plausibles, mais concrètement, avec les derniers jours qu'on vient de vivre, à part ce qui est anticonstitutionnel, y a-t-il encore des trucs impossibles? Y a rien d'anticonstitutionnel là dans ce qui vient de se passer. Éventuellement, le décret de convocation des électeurs qui est un peu court, on verra la décision du Conseil constitutionnel, mais la dissolution, c'est constitutionnel, c'est l'article 12 de la Constitution. Donc non, je sais pas. Cahuzac se présente-t-il sous la bannière Front Populaire? Je ne crois pas, non. Je ne pense pas que le Parti Socialiste investisse Jérôme Cahuzac dans une circonscription. Selon toi, comment expliquer le fait que Quatennens s'accroche autant à son siège? Je comprends pas. Parce que Adrien Quatennens ne s'estime pas si fautif que ça. Et au demeurant, les dirigeants de la France insoumise, ne l'estiment pas si fautif que ça, semble-t-il. Ça doit être ça. Est-ce que Valls s'est prononcé pour l'union des droites? Non, mais Manuel Valls, il soutient Macron, hein. Manuel Valls, il est assez clair, hein. Franchement, c'est pas compliqué, hein. Manuel Valls, il a quitté le PS depuis 2017. Il veut plus entendre parler du PS, il est contre le PS. Il soutient Emmanuel Macron. Bon, voilà. Il est surtout contre LFI. Oui, enfin, il tape beaucoup sur le PS aussi, hein, du coup, puisque le PS est allié à LFI. C'est le premier à dénoncer cet accord contre nature. Léon Blum doit se retourner dans sa tombe, etc., etc. Valls dans un prochain gouvernement hypothétique, LREM si majorité. Je ne sais pas si Manuel Valls va réussir à se présenter aux élections législatives et s'il va être investi dans une circonscription par le parti présidentiel. Quel impact des sondages sur les votes? Est-ce que si on interdisait les sondages, les votes seraient-ils pas différents? Non, mais les sondages font partie de la liberté de la presse. Les journalistes ont le droit de sonder les lecteurs, les électeurs, etc., pour poser des questions, faire des chiffres, etc. Il s'agit, enfin, moi, je suis contre les limitations de la liberté de la presse où on interdirait aux médias de faire des sondages. Non, les sondages, on a le droit de les faire. Ils ont un impact sur les votes, notamment sur les stratégies électorales. En fonction des sondages, les gens votent plus ou moins pour les camps politiques. Est-ce que tu penses que la gauche peut gagner? C'est une possibilité, ça va dépendre de la mobilisation des électeurs. Ça va dépendre de la mobilisation des jeunes. Maintenant, la vraie question, c'est pourquoi des jeunes qui n'ont pas voté aux européennes iraient voter aux législatives? Est-ce que la peur du RN au pouvoir fonctionne, suffit? Je sais pas. Les jeunes ont voté extrême droite. Non. Non, d'ailleurs déjà non. Il y a un jeune sur 10 qui a voté Bardella. Avoir une gauche unifiée, ça aide. Oui, mathématiquement, dans les circonscriptions, ça aide. Ça aide la gauche à se qualifier au second tour. Est-ce que ça l'aide à battre au second tour le Rassemblement national? Les personnes non inscrites aux listes électorales des européennes ont-ils une chance de voter pour les législatives? Non. Je confirme, les jeunes votent extrême droite. Non, mais c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Les jeunes, ils s'abstiennent. D'abord. Est-ce que je peux donner ma procuration à quelqu'un d'une autre circo? Oui. Mais il devra venir voter dans ton bureau de vote. T'a-t-on proposé une place dans n'importe quel parti, une place de député par exemple, dans une circonscription? Si oui, pourquoi avoir refusé? Et sinon, qu'est-ce que ça pourrait t'intéresser? Oui, on m'a proposé, ça ne m'intéresse pas. Je veux pas faire de politique. Moi, je suis streamer, je reste à ma place. Je fais mon bail. Je fais Brexit. Qu'est-ce que cette gauche a de plus que celle d'Hollande ou de Mitterrand pour convaincre? Bah ça, j'en sais rien, c'est à toi de me dire. Où est-ce que je peux contribuer sur Baxit? Point d'exclamation, caca bébé ou kiss kiss dans le chat. Hop, tu arrives sur la page Kiss Kiss Bank Bank de Baxit. Tu scrolles et là tu choisis ta formule d'abonnement. 1 euro par mois, 2 euros par mois, 5 euros par mois, 10 euros par mois. Membre du club Baxit, tu reçois ta carte. Ou alors tu peux faire un don unique ici en mettant ton montant. Et ça te permet de financer Baxit. Je viens de mettre 5. Merci beaucoup, merci, merci pour votre soutien à Baxit. Merci, je pense qu'on va réussir à faire des émissions grâce à vous pour les élections législatives. Comment on fait si on ne se reconnaît pas dans aucun parti? Eh ben, on fait un compromis avec soi-même. On choisit le parti le plus proche, même si c'est pas exactement ce qu'on veut. On estime que c'est suffisant. C'est normal que les partis politiques ne vous conviennent pas intégralement. C'est normal que vous ayez des choses à reprocher aux partis politiques. Merci Pierrot pour les subs offerts. Merci beaucoup. C'est normal d'avoir des différends avec les partis politiques pour lesquels on vote. C'est normal. Peut pas être d'accord avec tout. On peut avoir des réticences. C'est plutôt sain. Ouais, c'est sain. Moi, je trouve ça très sain d'être exigeant avec les partis politiques. On peut être inspiré par des gens, on peut être dégoûté par d'autres personnes, on peut être d'accord avec certaines propositions, on peut être sensible à certaines thématiques et pas à d'autres. C'est normal. On peut être dubitatif sur certaines propositions. Je me sens désabusé du débat politique ces 10 dernières années, symptôme normal ou pas, mais évidemment, la grande majorité des Français est désabusée. Enfin, je veux dire, je vous apprends rien, là, c'est pas nouveau. On le sait qu'il y a une crise démocratique, une crise de confiance, une crise de la représentation. Et on le sait très très bien. Non, on ne sait pas. Bon, bah, je te l'apprends alors. En France, en Europe et dans le monde occidental, il y a une crise de la démocratie depuis plusieurs décennies. Tu es toujours pilote? Ça fait longtemps que j'ai pas fait du flight simulator, en vrai. Et mon bureau qui est à côté, là. Ça fait longtemps que j'ai pas piloté. Je ferai ça cet été, je pense, tranquillement. Je vais rester à Paris un bon moment, donc. Je sais, j'ai vu que le nouveau Flight Simulator arrive. Je sais, tu penses bien. C'est le premier truc que j'ai regardé dimanche, avant même les résultats des élections européennes. J'ai regardé le trailer de Flight Simulator 2024. Attends, tu me connais. Tu restes pendant les JO? Ouais, une partie, ouais. Pourquoi vous devez vous inscrire et c'est pas comme en Belgique où le vote est obligatoire et tout le monde est d'office inscrit? Parce que le vote obligatoire, c'est de la merde. C'est une machine à punir les pauvres. C'est ça le vote obligatoire. Une punition collective sur les personnes les plus pauvres, qui sont les plus éloignées du vote, et qui doivent payer des amendes ou avoir des tracasseries administratives parce qu'ils ont commis le délit de ne pas aller participer à un système dans lequel ils ne croient pas. Voilà. Excusez-moi, c'était mon opinion sur le vote obligatoire. Et vous pouvez être en désaccord avec cette opinion, il n'y a aucun problème. Sauf que personne reçoit d'amende en Belgique. Non, je sais, c'est des tracasseries administratives en Belgique. Pareil, ça pèse sur les pauvres. Comme d'hab. C'est toujours eux qui trinquent. Les inscriptions sur les listes électorales effectuées avant le 23 mai seront acceptées, mais il y a débat entre l'INSEE et le ministère pour inscrire les demandes du 23 mai au 9 juin. Ça m'étonne pas. Non, mais c'est, en ce moment, vraiment, hein, doit y avoir des réunions entre fonctionnaires qui s'arrachent les cheveux. Ils doivent finir leur réunion à 2 ou 3 heures du matin sur l'organisation de ces élections législatives. Hein. C'est un cauchemar. Les préfectures sont mobilisées, alors qu'ils étaient tous en train de préparer les plans de mobilisation des forces de l'ordre pour l'été, etc. Ils n'ont pas que ça à foutre. Ils sont en train de s'arracher les cheveux pour organiser le scrutin. Les mairies, c'est un bordel monstrueux pour trouver les assesseurs, sortir le matériel électoral, etc. Mobiliser les salles des fêtes, les écoles et tout pour voter. Non, un immense big up à tous les fonctionnaires de la fonction publique d'État et de la territoriale qui en ce moment sont en train d'organiser les élections législatives anticipées. Vraiment, je vous aime d'un amour inconsidéré. Courage à vous, les fonctionnaires. Je sais ce que c'est, j'ai fait. J'ai eu travailler dans les collectivités locales et dans la machine de l'État. Je sais ce que c'est. Faire rentrer des carrés dans des ronds. S'arracher les cheveux. C'est le 30, le premier vote. Ouais, le premier tour, c'est le 30 juin. Cohabitation plus 6ème République possible. La 6ème République suppose une modification de la Constitution. C'est un processus lent qui nécessite d'avoir les deux tiers du Congrès. Le Front populaire, ça dépend de à quel point il remporte les élections. Si d'aventure il les remporte, il n'aura pas les 3 cinquièmes. Ou alors il faut faire un référendum. Et pour ça, il faut enclencher le processus référendaire. Ça prend du temps. 3 cinquièmes incluant le Sénat. Oui, le Congrès. Le Congrès, c'est la réunion du Sénat et de l'Assemblée nationale. T'es plus sur Twitter? Non, j'ai quitté Twitter il y a plusieurs mois maintenant. Est-ce qu'un parti a les 3 cinquièmes actuellement? Non. Aucun parti politique n'a les 3 cinquièmes. Tu trouves que ça t'a fait du bien de quitter Twitter maintenant que tu as plusieurs mois de recul? Oui. Oui, ça m'a fait du bien à ma santé mentale. En revanche, il faut reconnaître que je suis un peu plus coupé de l'actualité immédiate. J'apprends moins rapidement les infos. Mais c'est pas très grave. J'ai aussi pris de la distance et du recul. Je cherche moins qu'avant à être au taquet pour être le premier à lire les décrets, lire les textes, les motions, etc. Ça fait quoi, 15 ans de ma vie que je fais ça? Je ressens un petit peu le besoin de souffler. T'es sur Thread? Alors oui, je suis sur Thread. Je suis sur Thread. Je publie très très peu. J'ai passé l'âge de publier toute la journée sur la politique et tout. Mais oui, je suis sur Thread, ouais. Je suis sur Insta et Thread, c'est mes deux principaux réseaux maintenant. Tu penses quoi de l'article 16 de la Constitution? C'est de la merde, il faut le retirer de la Constitution. C'est une connerie qui remonte aux années 50, qui est un espèce de délire d'hubris, qui n'a pas sa place dans une Constitution au XXIe siècle. C'est quoi l'article 16? L'article 16, c'est les pouvoirs exceptionnels. C'est un article qui a été pris par De Gaulle dans une perspective en gardant en mémoire des moments de l'histoire importants comme la défaite, la débâcle de 1940 et la guerre d'Algérie. Et c'est un article qui dit que quand les circonstances l'imposent, le président de la République peut prendre toutes les décisions. C'est un espèce de article de plein pouvoir au président. Dans un contexte, il faut imaginer un contexte de siège. Parfois, on appelle ça l'état de siège. C'est, voilà, faut imaginer la débâcle de 1940. Vous voyez? Toute la France est sur les routes, il n'y a plus d'État. Vraiment, il n'y a plus d'État, il n'y a plus d'administration, tout est effondré. Il n'y a plus de Parlement, il n'y a plus de. Enfin, bref. Et il faut pouvoir prendre des décisions très vite, des décisions militaires, notamment, pour essayer de sauver les meubles de la République, quoi. C'est un peu l'idée. Donc il y a cet article 16 qui n'a jamais été utilisé et qui prévoit que voilà, le président de la République a tous les pouvoirs dans un contexte de drame absolu, quand les intérêts vitaux de la nation sont menacés, c'est ça le texte. Donc faut imaginer les intérêts vitaux menacés, quoi. Qui décide qu'ils sont menacés? Ben justement, c'est tout le problème de cet article, c'est qu'il est très flou. Et que c'est un peu au petit bonheur la chance, c'est le président de la République qui décide tout seul. C'est très dangereux dans le cadre où l'extrême droite est à l'Élysée, par exemple. Un avis sur l'ordre 66? Oh, je suis contre. Non, je suis contre. Il n'y a pas assez de voies de recours. L'ordre 66, c'est dans Star Wars, les gars. Si vous avez pas la ref, c'est dans Star Wars. C'est pas grave. Oui, des fois, je fais des blagounettes. Ça m'arrive. Un avis sur la béchamel dans le croque-monsieur? Je suis contre. Suis pour la simplicité, moi. Sérieux, vous êtes pour? Ah ouais? Ah merde! Ah, j'ai trigger tout le monde là. C'est quoi le problème avec le délai de convocation des électeurs? Bah, c'est que si tu veux faire des élections anticipées dans les territoires et les collectivités d'outre-mer, tu fais des élections avant le délai minimum de 20 jours. Donc il y a une question de droit constitutionnel qui se pose. Et on verra ce que répond le Conseil constitutionnel. Un pronostic sur l'avenir de Ciotti, ça c'est une bonne question. J'en sais rien. Je pense que Ciotti va finir par se faire dégager en bonne et due forme et que les procédures judiciaires vont traîner, ça va prendre beaucoup de temps. Donc à mon avis, les Républicains, ils sont pas sortis des ronces. Pourquoi les Outre-mer doivent voter avant? Pourquoi ils ne peuvent pas voter après? Pour des raisons d'organisation du scrutin, pour des raisons de facilité d'accès au bureau de vote et pour des raisons de créneau horaire. Fuseau horaire, voilà, je cherchais le mot. Pour pas qu'ils aient les résultats de la métropole, enfin de l'Hexagone, avant de voter. L'article 16 a déjà été lisé. Bah oui, pendant le putsch des généraux, c'est vrai, t'as raison. Pendant le putsch d'Alger. C'est vrai. Oui, c'est vrai, l'article 16 avait été utilisé, mais uniquement sur le territoire algérien, je crois, de mémoire. Bon, les copains, il est 19h déjà. Il est 19h déjà. Je crois qu'on a parlé de l'essentiel des sujets d'actu. Je vais m'arrêter là. On va pas faire de raid, on va rester peinard. Merci à vous d'avoir été là, c'était cool. Je vous fais des bisous. Je streamerai probablement pas ce week-end, je sais pas. J'en sais rien. Ça dépend de l'actu, hein. S'il y a des dingueries, vous me connaissez, je suis au rendez-vous. Merci d'avoir été là, merci pour vos subs. Merci beaucoup pour vos subs, vos resubs et vos primes. C'était chouette, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, profitez bien. À très bientôt, ciao ciao.